اللي سمعنا باللي هذه يسموها قنبلة نووية، يعني حاجة تفزع.
جات واحد الزوبعة، واحد الريح، واحد العاصفة جهدة، سمع لا بريسون تحل هكاك. كنا مبضرة قدين ونسمعوا الزف نتاعها، وما كذبوا علينا، قالوا لينا تبقى تصب لكم الصحاب، تبقى تجيب لكم النوم، من نهار اللي تفجر تجيب لكم النوم. ايوا من نهار اللي تفجر توشنا.
هاد العين تاعي نبقى تشوف، خايفه تمشي هاد العين الثان تانا تروح لي.
La mémoire, c'est aussi la mémoire visuelle. On l'a vu, cette petite fille parler avec beaucoup d'émotion de, et juste avant elle, des témoignages à Regen et depuis Regen sur les effets dramatiques, catastrophiques, irradiants de ce que les Français appellent essai, mais que nous appelons, nous, crime atomique, explosion atomique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. En ce samedi 14 février 2026, on va s'intéresser à ces explosions nucléaires commises, parce que c'est un crime d'État, et on va expliquer pourquoi c'est un crime d'État, commises à partir du 13 février 60 dans le Grand Sahara algérien. Nous avons le plaisir de recevoir en direct dans nos studios le docteur Ammar Mansouri. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
C'est nous qui vous remercions d'être là présent avec nous. Vous êtes spécialiste et chercheur, expert en génie nucléaire. On va commencer par le commencement, j'allais dire. Pourquoi le 13 février 60 et pourquoi Regen? Que voulait faire la France en Algérie en procédant à toute une série d'explosions nucléaires?
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, la France coloniale, donc il faut parler de...
Situer le temps.
Situer le temps, exactement. Donc cette France coloniale avait pour objectif, et pour, c'est-à-dire pour devenir une puissance parmi les puissances mondiales, telles que les États-Unis, l'ex-URSS et la Grande-Bretagne. Donc, elle a fait tout pour en arriver à cet objectif. Donc, étant donné que les Français, à l'époque, notamment un colonel et le général Ehlery, le colonel a visité les États-Unis. Donc, il a visité le Sahara, le Nevada, plutôt le, là où il y a eu des expériences.
Le désert du Nevada.
Le désert, etc. Et en 1957, c'est le général Ehlery qui a visité. Donc, ils ont compris que pour en arriver à exécuter un programme nucléaire d'une dimension internationale, il faut qu'il y ait un Sahara, il faut qu'il y ait un désert, il faut qu'il y ait un espace libre. Donc, en 1957, le général Ehlery qui a visité Nevada, il a visité le Tanzruft, comme on dit, oui. Donc la région de Regen, etc. Et donc, il a rédigé un rapport technique. Et dans ce rapport, il dit clairement que c'est un désert. Et il n'y a pas de vie. Il n'y a pas même de voisins. Et que la nature a fait...
Allez-y.
Donc, que la nature a fait son œuvre. Donc, il a bien décrit que cette région méritait qu'on
pouvait recevoir des explosions atomiques.
Malgré que... Les États-Unis, donc les trois puissances nucléaires à l'époque, étaient contre. Pourquoi contre? Parce qu'ils ont l'expérience des explosions nucléaires aériennes, qui sont très polluantes pour tout le globe terrestre, j'ai dit.
Pourquoi très polluantes pour tout le globe terrestre? Parce que la météo
existe,
la migration des nuages, y compris radioactifs...
Ils couvrent toute la planète. Donc l'ONU aussi était contre.
Les Nations Unies étaient contre.
Les pays africains étaient contre. Et l'Algérie, évidemment, était contre. Malgré ça, la France s'est passée outre. Le drame est où est-ce qu'il est? Premièrement, le premier crime qu'a commis la France, c'est le fait de choisir le Sahara au détriment de ses habitants. Donc, ils n'ont pas été consultés.
Alors, on fait une petite précision, si vous permettez, docteur Mansouri. Pour eux, ils disent le désert et nous, on dit le Sahara. Parce que le Sahara, il y a des oasis, des centres de vie. Et sur certains documents de la France coloniale, on a vu deux appellations, PLO, pour population laborieuse des oasis. Donc, les documents français de l'époque reconnaissaient, aujourd'hui ils le reconnaissent moins, ou pas du tout, reconnaissait l'existence de ces PLO, c'est une terminologie strictement coloniale, et peut-être même colonialiste, l'histoire tranchera, population laborieuse des oasis, et population au pluriel. Ouais. Donc la France, avant de procéder à ces explosions atomiques, reconnaissait qu'il y avait des populations, lesquelles populations ont été utilisées comme main d'œuvre pour bâtir le site de Hammoudia.
Exactement.
Vous le confirmez?
Bien sûr. Et au niveau de Ergan, les PLO, c'est au niveau de Heineken. Par contre, au niveau de Ergan, c'est PLBT.
Bastouat.
Donc, c'est les populations du bas du Touen.
Du bas du Touen,
exact. Donc, parmi ces populations, il y a même des Africains. Donc, toute cette population a contribué pour creuser les tunnels. Soit au niveau de Ergan Plateau pour les laboratoires, donc il y a 14 tunnels qui ont été creusés. Et au niveau de Aïeuk, il y a 13 tunnels, donc dans la distance arrive à 1 km.
Les fameux E, le E1, le E2, le E3,
donc, comment dire que les Français reconnaissent qu'il y a une population? Parce que le 4 février 1960, il y a une note des Français qui dit aux Français qui surveillent la région, dire aux populations algériennes qu'ils n'auront pas peur, ça n'y a pas de risque. Le plus important, il faut leur dire que la France n'a fait que du bien pour vous.
C'est pour cela que dans le témoignage au tout début de l'émission, la personne vieille se rappelait de ce que disaient justement les Français, ces expériences, entre guillemets, allaient rapporter la pluie.
La pluie, exactement. Donc, et en même temps, on a donné aux populations au niveau de Ergen, on a donné des films dosimètres.
La population locale appelait les fameux Scooby-Doo.
Donc le but, ce n'est pas une protection. Non, on les a utilisés comme cobayes pour voir la radioactivité à 40 km, quel est l'effet de la radioactivité sur l'être humain, etc.
Les dosimètres étaient des petits carrés.
Voilà, exactement.
Portés par une cordelette autour du cou.
Exactement.
Pour permettre d'absorber le niveau de radiation. Exactement. Et voir, à partir du site zéro de Hammoudia jusqu'à Ergen, les populations étaient, j'allais dire, clairsemées. Chacun en fonction de sa position, quel niveau d'absorption, donc de contamination, il pouvait avoir. C'est on ne peut mieux comme explication de les fameuses PLO qui ont servi, population laborieuse des oasis, qui ont servi comme cobayes.
Exactement.
Donc c'est un véritable crime d'État.
Crime d'État. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire, crime d'État. Donc, le but de ces films dosimètres, c'est pour la radioprotection, c'est-à-dire pour développer des vêtements, pour développer des instruments de radioprotection des soldats français, etc. Donc, en ce qui concerne un crime d'État contre l'humanité, j'explique pourquoi un crime d'État. Parce que le programme nucléaire français a été conçu par des scientifiques du CEA, commissaire des énergies atomiques. Tous les décisions qui sont passées étaient d'accord pour la conception d'un programme nucléaire. Et cela a débuté depuis le 18 octobre 1945, lorsqu'il y a eu la création du CEA, qui avait un programme militaire.
Et c'était donc juste après la première explosion nucléaire d'Hiroshima.
70 jours exactement après Hiroshima.
La France ne voulait pas rester, elle voulait rentrer, pénétrer le club nucléaire.
Donc, et les militaires ont exécuté ce programme nucléaire. Et sous la responsabilité des politiques. Donc, les politiques, les scientifiques, les militaires, tous étaient d'accord. Donc c'est un crime d'État contre l'humanité.
Donc c'était... Les militaires n'ont agi que sur ordre des politiques.
Des politiques, exactement.
C'était les militaires ont agi en tant qu'ils ont exécuté un programme politique qui consistait à réaliser une série d'explosions tout en sachant qu'il y avait des populations qui pouvaient être irradiées.
Exactement. Donc ça, c'est le premier crime. Le deuxième crime, c'est que la France... a fait exploser la première bombe atmosphérique avec une énergie de 70 000 tonnes.
70 kilotonnes.
70 000 tonnes, je dis oui. Bien tonnes. Mais
au équivalent
de
TNT.
De TNT. Si on compare cette puissance avec Hiroshima, par exemple, c'est 5 fois à peu près.
C'est 12 kilotonnes Hiroshima.
Donc si on en compare encore avec les premières explosions des États-Unis, l'ex-URSS, la Grande-Bretagne, ils n'ont pas dépassé 20 kilotonnes. Malgré que les États-Unis, c'est les plus initiateurs du nucléaire, ils maîtrisaient bien l'atome, ils n'ont pas fait exploser une explosion de plus de 20 kilotonnes. Alors que la France, elle a abusé. C'est-à-dire, si on fait la somme des trois explosions premières, des trois puissances, c'est 68, même pas 70.
Vous voulez dire, preuve à l'appui, chiffre à l'appui, que la première bombe américaine, celle de la bombe ex-URSS, plus celle de la première bombe de la Grande-Bretagne, les trois réunis
68
kilotonnes, et le 13 février 60, la première bombe, c'était 70. Donc, la bombe du 13 février 1960, Gerboise bleue, à Hamoudia, aux alentours de Guyane, c'était plus que les trois bombes américaines, britanniques et de l'ETSIRSS réunies. C'est un giga crime d'État.
Exactement.
Et qui plus est, je pense que la France voulait punir l'Algérie parce qu'on était dans ce qu'appelait le général de Gaulle le dernier quart d'heure. Les négociations avaient été entamées secrètement, ensuite officiellement pour aboutir à l'indépendance de l'Algérie. Et la France, ayant découvert quelques années auparavant le pétrole, ne voulait pas laisser un Sahara propre, mais un Sahara irradié, inhabitable.
C'est-à-dire, je m'explique, la France s'est vengée contre le Sahara. Pourquoi ? Parce qu'après la c'est une vengeance pour moi.
C'est une vengeance nucléaire. Atomique.
Donc, qu'on a découvert le pétrole en 1956, en 1957, la France avait une politique de la séparation du Sahara.
Oui.
Elle a demandé qu'elle donne l'Algérie l'indépendance en 1958, sans le Sahara. Donc, l'Algérie n'a pas accepté, le FLN n'a pas accepté. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est vengée. Donc, le programme nucléaire a commencé en 1957. On a commencé, donc, et ils voulaient laisser le Sahara inexploitable.
C'est-à-dire, ou on prend le Sahara,
ou
on l'irradie, il devient invivable.
Ou bien, il faut le polluer. Et on l'a pollué, pas avec le nucléaire uniquement. Donc, la pollution, elle est générale. Donc, on l'a pollué avec les armes chimiques et biologiques.
Et peut-être qu'on va aller... dans un temps futur, avant le 5 juillet 62, date de l'indépendance, peut-être qu'on va programmer une émission spéciale sur le site de Bédenamous pour démontrer aux Algériens que le polygone, le gigapolygone de Bédenamous, était le deuxième plus grand centre d'expérimentation au monde pour les armes biologiques, bactériologiques et chimiques. Parenthèse fermée.
Ce polygone, c'est 100 km sur 60.
100 km, c'est 60.
Sur 60, donc c'est presque un petit état.
C'est un petit état. C'est quand même plus de 100 000 km². À titre d'exemple, un pays comme le Liban, c'est seulement 10 000 km². Donc c'était 10 fois la superficie du Liban.
Donc il y a un autre lieu qui est aussi pollué, c'est au niveau de Hamaguer, on a fait les expériences, donc le programme spatial, à partir de 1947.
Et c'est à Hamaguer, en 1947, qui est né l'acte de naissance du programme spatial français.
Et à Colombéchard, c'est tout ce qui est balistique.
Très bien.
Toutes ces régions-là, tout le sud algérien a été pollué. Et notre problème actuellement, c'est que la France, malgré tout ce qu'elle a fait comme dégâts, juste en 1976, lorsqu'ils ont quitté les sites nucléaires de Regen et de les sites nucléaires de Regen et de Tamaraset.
Allez-y.
Lorsqu'ils ont quitté les sites de Regen de Ain Yeker, au lieu de dépolluer, au lieu de nettoyer, au lieu d'avertir les autorités algériennes sur les risques, etc., au lieu de clôturer, ils n'ont rien fait.
On va y arriver petit à petit, mais pour dire, avant d'arriver à la décontamination qui a été entamée par les unités spécialisées de l'armée nationale populaire, notamment,
qu'on salue
plus que vivement, c'est une véritable, c'est le ministère de la Défense qui aussi protège la souveraineté nationale, mais protège les populations qui risquent d'être contaminées par ces résidus fortement irradiés. Alors, pour toi, Regen, population laborieuse qui vivait dans des oasis, pour vous avoir aussi rencontré de nombreuses fois sur site, quelque chose qui attire l'attention, c'est les moulins à blé, c'est les petites minoteries en nombre anormalement élevé qui existent et qui existaient mais qui existent toujours parfois à l'état de ruine à Regen. Cela veut dire qu'avant le 13 février 60, l'agriculture était florissante. Exactement. Dans l'oasis de Regen, que Regen assurait sa propre sécurité alimentaire, son autosuffisance alimentaire, notamment en céréales, et que Regen exportait vers d'autres régions du Sahara algérien du blé. Il y avait de l'eau à travers un système, celui des Fougara, que les différentes explosions ont gravement perturbé, et qu'il y avait de la végétation, il y avait des fruits, des légumes, des céréales. Tout cela a été grièvement perturbé pour justement irradier l'air, le sol, l'eau, et forcer les habitants à j'allais dire, déguerpir des lieux, à se sauver. Mais les habitants tiennent à leur terre, comme tous les Algériens. Ils restent. Il y a une contamination et il faut assurer maintenant la décontamination.
Exactement. Donc le programme nucléaire français avait des dégâts environnementaux très importants. Il avait aussi des conséquences désastreuses sur la santé humaine. Donc, auparavant...
Ça s'est fait en atmosphère libre, pardon de vous interrompre. Ça s'est fait en atmosphère libre. Il faut peut-être expliquer aux auditeurs que de par le monde, il y a des essais en atmosphère libre, mais surtout des essais souterrains. La France a des explosions en atmosphère libre. On développe la chose à l'atmosphère, en atmosphère libre, ça veut dire qu'il y a une exposition directe, contrairement aux explosions souterraines. La France a choisi, à partir du 13 février 60, de procéder à 4 explosions en atmosphère libre aérienne. C'est quand même un crime dans le crime.
Les explosions aériennes ont des conséquences graves directement sur l'environnement dans toutes ses dimensions, soit la faune, soit la flore, soit la santé humaine. Et ça, c'est connu à travers le monde. Et on a l'exemple de Hiroshima qui est très clair. En 57, il y a eu la publication par les Japonais qui a été traduite en français et j'ai eu l'occasion de voir ça. Donc en 57, il y a des études qui ont été faites par les Américains, par les Japonais sur les conséquences de la radioactivité et des rayonnements ionisants sur la santé et sur l'environnement. Et les Français étaient
au courant
et c'était traduit. Donc quand ils ont commencé leur programme en Algérie, ils savaient tout.
C'était 15 ans après Hiroshima.
Voilà.
Donc on avait le retour d'expérience entre guillemets d'Hiroshima, les conséquences 15 ans après, et malgré les 15 années de retour d'expérience d'Hiroshima et de Nagasaki et du désert du Nevada pour les Américains, la France a persisté à signer ces explosions et ces crimes atomiques.
Et il faut dire que dans le cadre des accords d'Évian, la France a demandé qu'elle reste du 62-67 pour terminer son programme, soit au niveau de Regen ou Ain Yeker, au niveau de Hammaguer, au niveau de Colombéchar, au niveau de B2 Namous.
D'accord.
Mais on n'a pas négocié les conséquences de ces armes de destruction massive. Alors qu'ils disent, c'est des expériences scientifiques. Voilà notre crime, qui est condamnable par ça de toutes les lois. C'est-à-dire, on a menti pour les Algériens. Dire des expériences scientifiques, alors c'est des explosions et des essais chimiques concernant les armes de destruction massive.
Peut-être parce que les Algériens n'avaient pas accès aux universités. L'Algérien de ces années-là, l'Algérie était sous occupation. Elle n'avait pas les compétences scientifiques et techniques pour mesurer les effets radioactifs de la contamination des sites où se sont déroulées les expériences du côté de Bédenamous et les explosions tant à Rguen qu'à Inéker.
Donc, maintenant, je crois en ce qui concerne la dépollution. Ce n'est pas une affaire mince affaire. La dépollution et la gestion des déchets nucléaires, c'est une affaire très, très importante. Elle demande beaucoup de moyens, beaucoup d'expertise, elle demande de l'expérience. Et là, je dirais que dans le cadre du traité du 7 juillet 2017 concernant l'élimination des armes nucléaires, dans l'article 6, on parle de l'assistance aux victimes.
Et dans 2017.
17, oui. Et dans l'article 7, on parle de la coopération internationale. Pourquoi on parle de la coopération internationale? Parce que la dépollution, elle demande vraiment qu'il y ait échange entre les pays concernés. Par exemple, l'Algérie, elle peut faire des échanges avec le Japon. Comment Hiroshima est devenue une ville décontaminée. Moi, j'ai dit Hiroshima, oui. Donc c'est une ville moderne, il n'y a pas de contamination.
Qui a dépassé le drame.
Le drame. Si on parle aussi l'Australie, la même chose, l'Angleterre a fait son travail, dépollué, etc. Donc on a besoin de ces expériences, on a besoin de coordonner avec ces pays dans le cadre des traités. Maintenant, les lieux qui sont concernés pour l'Algérie, les lieux où il y a un danger actuellement qui guette les populations et qui guette toute forme de vie. Premièrement, c'est les 4.0 de Hamoudia. Les points zéro, c'est des points chauds. Ces 4 points, malgré que l'Algérie a fait un siège, une clôture, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que la décontamination, si on prend l'exemple qui n'est pas loin de Fukushima, si vous avez vu dans la télé, on prend toute une couche.
On racle le sol.
Le sol, toute une couche qu'on doit mettre dans des sacs et qu'on doit mettre dans un endroit sécurisé pour des centaines d'années.
C'est ce qu'ont commencé à faire les unités de l'ANP au niveau de Inéker.
Voilà. Pourquoi je dis des centaines d'années? Si je prends l'exemple des États-Unis avec les îles Marshall, les États-Unis ont construit un dôme pour 250 000 ans. Pourquoi 250 000 ans? Parce qu'il y a du plutonium en question. Et le plutonium a une durée de sa demi-vie, c'est 2400 années. Et pour disparaître, il faut 10 fois là. Donc 240 000 ans pour qu'on puisse se débarrasser du plutonium. Donc, ils ont construit un dôme dans ce sens. Donc, les autres lieux qui sont concernés, il y a aussi la ville de Rguen elle-même. Pourquoi la ville de Rguen? Parce qu'elle a été déjà exposée aux 4 explosions aériennes.
La bleue, la verte, rouge et la verte.
Les 4. Et en même temps, la France, quand ils ont quitté les sites en 1967, ils ont laissé beaucoup de choses sur la surface. Contaminés, que la population a pris, ils ont utilisé dans leur construction, etc. La ferraille. Moi, ce que j'ai demandé il y a longtemps, qu'on puisse faire un travail porte à porte au niveau de la ville de Rguen et voir s'il y a des choses contaminées qu'on doit enlever parce que c'est un risque pour les populations et l'atome ne pardonne pas, comme l'a dit Einstein, ne pardonne pas. S'il y a un rayonnement, il ne pardonne pas et il va y avoir d'autres victimes gratuitement. Donc, il faut dépolluer au niveau de cette ville. Aussi, les palmeries. Il y a beaucoup de palmeries autour de Rguen qu'il faut contrôler, voir le degré de contamination dans ces palmeries. Parce qu'il faut commencer là où il y a la vie humaine. Il faut commencer
quand
là.
Vous dites palmeries, c'est aussi en référence aux populations laborieuses des oasis.
Des oasis, exactement. Donc, ça, c'est au niveau de Rguen. Et toujours au niveau de Rguen, ici, il y a le Rguen Plateau, il y a les laboratoires. Donc, ces laboratoires, moi, j'ai visité à l'intérieur. La France a fermé avec du béton, tout court. Mais la radioactivité, il y a à l'intérieur toujours. Donc, il faut le fermer il faut clôturer, il faut sécuriser pour de bon et faire même, à mon avis, faire des reportages là-dessus pour l'histoire et les fermer une fois pour toutes pour qu'il n'y ait plus de risques pour la population ou soit toute une personne qui, par hasard, pénètre dans ces tunnels. On ne sait jamais.
Alors la précision peut-être qui s'impose, c'est que l'Europe, dès 1972, a adopté le principe du pollueur-payeur.
Exactement.
Et adopté par la France en 1986 via l'article L110-1 du Code de l'environnement. Dans le Code de l'environnement français, donc dans la législation française, il y a le principe fondamental du droit de l'environnement. Le droit de l'environnement en France préconise et impose, surtout, il impose le PPP, qui est le principe du pollueur-payeur. Et il est clairement dit, et cité dans la législation française, que le principe du pollueur-payeur fait supporter les frais résultant des mesures de prévention, de réduction et de lutte de la pollution à celui qui les a causés. C'est écrit noir sur blanc dans la législation française depuis exactement 40 ans. Et depuis 40 ans, la France se faufile à travers les mailles de la législation internationale et surtout refuse de remettre la cartographie des sites d'enfouissement des déchets radioactifs. Enfin, les déchets, les contaminations, parce que pour procéder aux explosions, il y a eu des engins militaires, des avions, des chars, une demi-frégate. On a ramené une demi-frégate,
des bateaux
pour voir la radioactivité sur le matériel militaire. Mais pas que, puisqu'il y avait des camions, il y a même eu des animaux qui ont été testés.
Le but d'utilisation de ces engins autour d'une explosion nucléaire, c'est dans le cadre de la préparation d'une guerre nucléaire. C'est pour voir l'effet d'une explosion sur ces engins-là. Et en même temps, il faut voir aussi les effets sur les soldats. Donc c'est un travail bien...
Et il n'y a toujours pas, la France n'a toujours pas remis une cartographie simple et précise des sites où ont été enfouis ces objets militaires ou civils fortement radioactifs.
C'est des tonnes de... C'est-à-dire, je continue
oui,
pour les lieux. Donc, au niveau de Ein Necker, qu'est-ce qu'il faut comme lieu de décontamination, les
Alors,
urgences.
On explique. Ein Necker, c'est du côté à 120 km au nord de Tamanrasset. 150. Il y a une montagne.
Taourirt Tanafella.
Taourirt Tanafella.
Où il y a eu les...
Taourirt, c'est le village.
Taourirt, non, c'est le nom de la montagne.
La montagne. Ouais. Et donc, il y a une galerie qui a été creusée pour...
13 galeries.
Oui. Des galeries qui ont été creusées
d'un kilomètre
ouais. Pour pouvoir
faire l'explosion.
Pourquoi 13? Parce qu'il y a eu 13 explosions et donc faire des explosions souterraines dans 13 galeries.
13 galeries qui ont été creusées par les Algériens et les Africains, malheureusement. C'est-à-dire, les lieux qu'il y a lieu de contaminer, il y a la lave. Donc, il y a eu un accident. Donc, sur les 13 ces explosions, il y a eu 12 accidents, dont le plus grave et l'unique dans le monde. C'est l'accident Biri qui a eu lieu le 1er juillet 62.
1er mai 62.
Pardon, 1er mai 62. Donc il y a eu la lave, 10 000 tonnes.
Alors la lave, on explique à nos auditeurs, provient d'où ?
Il y a une galerie. Du cœur de la montagne.
Du cœur de la montagne. Donc il y a une galerie d'un kilomètre.
Voilà.
Il y a une explosion très forte. Pour la petite précision, le 7 novembre 1961, il y a eu une explosion de 10 kilotonnes.
La première.
Du côté d'Ein Necker. Quelques mois après, voyant les pourparlers, les accords d'Évian arriver, avancer, on a aussi multiplié par 4 la puissance. Le 1er mai 1962, la puissance de la bombe que les Français appellent l'incident Béryl, c'était 40 kilotonnes. C'était 10 fois celui de la précédente explosion. Ouais. C'est quand même 4 fois plus.
4 fois. Donc, il y a eu ce que j'appelle, moi, le premier Tchernobyl, accident de Tchernobyl, parce qu'il y a eu un nuage radioactif qui est sortie de la montagne, plus la lave...
qui est sortie de la montagne, c'est quand même une montagne. C'est une montagne...
A été fragilisée, donc a été ouverte.
La puissance a été telle que la montagne s'est ouverte.
S'est ouverte, exactement.
Pour laisser passer un nuage radioactif.
Un nuage radioactif. Ce nuage, malheureusement, est passé sur un village, Mertoutek, algérien. Il y a eu beaucoup de morts le même jour.
Le jour même, le 1er mai.
Le 1er mai.
1962.
Il y a eu beaucoup de bétail qui est mort. Et c'est les Français qui reconnaissent ça. Ce nuage est arrivé à la frontière, à la frontière libyenne. Et comme les Français le suivaient par des avions, ils ont trouvé les avions américains qui les attendaient. Ils attendaient ce nuage. Pourquoi ? Parce que les Américains suivaient de près le programme nucléaire français en Algérie. Ils ont installé au niveau de la Libye des installations qui surveillent les séismes, etc. Donc, qui suivaient de près le programme nucléaire français. Donc,
au niveau des archives américaines, il est possible, ou il serait possible de récupérer.
Des archives. Parce que l'archive, c'est notre grand problème avec la France actuellement. Parce que s'il n'y a pas d'archives, on ne peut pas parler de dépollution. Parce que les archives nous donnent des informations directes, correctes, scientifiques, précises, les lieux, la puissance, les radioéléments qui sont en question, etc., pour qu'on puisse prendre nos responsabilités. Et ça n'a pas encore été fait.
13 explosions, pollution des sites, la lave produite par l'intensité et la force des pollutions, des explosions, il va falloir dépolluer ce site.
Il y a eu une étude en 65 par les Français. Ils disent que sur la lave, il y a au moins 25 curies de plutonium. Ça, c'est très grave.
Est-ce qu'on peut répéter cette précision, s'il vous plaît, Dr. Mansouri? En
1965, l'étude de 65 disent qu'il y a au moins 25 curies de plutonium dans cette lave.
C'est une étude réalisée par des experts français.
Français, voilà. Et les experts de l'AIOA qui sont venus en 1999, et les experts de CRIRAD, donc c'est une boîte indépendante qui sont venus en 2009, j'étais personnellement avec eux. Donc on a trouvé que les experts de l'AIOA, et le rapport de, c'est-à-dire il y a eu l'expertise en 1999, mais le rapport est sorti en 2005, 6 ans après. Pourquoi ? Déjà avec la mission de l'AIOA, il y avait un Français.
Et on peut dire, ou supposer qu'il y a eu des jeux de coulisses.
Quand on a fait une contre-expertise par une boîte indépendante CRIRAD de la France en 2009, ils ont pris les mêmes échantillons. J'étais personnellement avec le laboratoire. 2 semaines, pas plus, au maximum 3 semaines, ils m'ont envoyé les résultats. Qu'est-ce qu'on remarque ? On a remarqué que par rapport au rapport de l'AIOA, qu'il y a un chiffre de 10 puissance 6 qui a été enlevé.
10 puissance 6, c'est 1 million.
1 million, oui. C'est-à-dire, là, c'est notre crime. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de dire aux autorités algériennes qu'il y a un risque sur la lave, qu'il y a un risque 3.0, on dit non, il n'y a rien. Parce que si je te donne un exemple très simple. Si je te dis qu'entre la Terre et la Lune, il y a 10 puissance 6 kilomètres. Et j'envoie 10 puissance 6. Et je te dis qu'entre la Lune et la Lune, 5 kilomètres. Vous voyez ce que ça veut dire ? Ça, c'est très grave.
C'est un crime dans le crime.
C'est un crime dans le crime, c'est un crime organisé. Donc, la preuve, le rapport est sorti 6 ans après. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, je termine. Donc, les lieux qu'il faut dépolluer, il y a Mertoutek. Donc, Mertoutek, il faut voir, au niveau de ce village, les dégâts. Il y a aussi Idels.
Idels.
Il y a aussi Aïn Mghel.
Oui.
Qui n'est pas loin. Donc, c'est comme Ergan, il y a 40 km à la vol d'oiseau. Donc, tous ces endroits-là, c'est des lieux de dépollution pour éviter qu'il y ait d'autres victimes.
La dépollution incombe à celui qui a commis la pollution.
Exactement.
Selon les standards internationaux, Dr. Mansouri.
Il y a un autre endroit plus grave encore. C'est Tenataram.
Tenataram.
Taourir Tenataram. C'est un lieu qui se trouve à 30 km à l'ouest de Taourir Tenafla. Taourir Tenataram, ça veut dire le haut. Taourir Tenafla, c'est le haut. Avec Terguia, et Taourir Tenataram, c'est le bas. Donc, à ce niveau-là, il y a eu l'opération pollen. Quand on dit pollen, ça veut dire quoi? Oui. Donc, on a dispersé du plutonium et on a ramené des soldats français de l'Allemagne, parce qu'il y avait la guerre froide. On a ramené, c'est pour préparer une guerre nucléaire. Donc, on a
Ensemencé.
Ensemencé avec du plutonium le plus grave, à l'air libre, pour voir le comportement des soldats dans une guerre nucléaire. Mais le plutonium a pollué des centaines d'hectares. Et donc la dépollution, ce n'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Parce que si on s'amuse à 40 hectares et on va prendre de la terre de 40 hectares...
Ça fait beaucoup.
Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'expertise, ça demande etc. Et c'est-à-dire...
Et peut-être c'est à saluer l'initiative prise par le... qui est très volontariste par le ministère de la Défense. On a vu dans un documentaire...
L'initiative prise par le ministère de la Défense, c'est pour sauver les vies humaines. C'est le but.
C'est le sens noble du mot défense des populations.
Parce que moi, personnellement, à chaque fois quand je dis, on ne veut pas s'adresser des gestes humanitaires qu'on est en train de faire. Si on demande à la France de nous donner les cartes, de nous donner des informations précises sur ce qu'elle a fait au niveau du Sahara, c'est pour sauver les vies humaines.
Et c'est pour défendre la vie dans les espaces contaminés.
Mais si on veut condamner la France, c'est un autre dossier.
C'est un dossier, juridique.
Juridique. Nous, c'est humanitaire. Ouais. Donnez-nous les cartes, parce qu'on a un passé avec la France qui n'est pas... c'est un passé noir, donc on se calme les mines. On a demandé les mines depuis longtemps. C'est en 2007 qu'on a remis les mines, alors que l'ANP a déjà terminé le déminage.
Et qui a été félicité par les instances internationales.
Exactement.
L'Algérie classée première, il faut le dire, il soulignait, première mondiale en matière de déminage.
Alors, si on a attendu que la France nous donne les cartes, on va comptabiliser des milliers de victimes.
Alors, pour les auditeurs, pour qu'on comprenne, cela consiste en quoi ? Ce qui est en train d'opérer les unités spécialisées de l'Armée nationale populaire au niveau du site de Ineker. On l'a vu à travers un documentaire en train de dépolluer. Ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas une simple dépollution, mais c'est une décontamination nucléaire. C'est quelque chose de lourd qui nécessite une main-d'œuvre spécialisée dans un environnement fortement irradié. Vous avez parlé dans une précédente émission de quelque chose comme 10 000 tonnes de lave. C'est un travail titanesque que sont en train d'accomplir les unités spécialisées de l'ANP, docteur Mansouri.
Moi, pour le travail que l'ANP est en train de faire, c'est une bonne chose pour moi. Personnellement, l'Algérie va acquérir des expériences. Au contraire, on doit être indépendant dans tous les domaines. C'est une occasion. Mais ça ne veut pas dire que le pollueur doit payer.
Elle
doit
ça n'absout pas la France coloniale de ses crimes atomiques.
Exactement. Donc, pour la dépollution aussi, il faut parler d'une loi américaine qui dit que toute personne qui se trouve à un rayon de 700 km du point zéro, elle est concernée par les retombées radioactives.
700 km.
Un rayon.
Rayon de 700 km. Tout autour.
La dépollution, elle concerne toute cette région.
Mais c'est l'équivalent minimum de plusieurs pays en termes de superficie.
Elle arrive jusqu'à Gerdeil, elle arrive jusqu'à... Vous voyez, donc la dépollution, elle n'est pas aussi, j'ai dit, facile. C'est un travail de longue haleine, il demande beaucoup de temps, mais on doit le faire. On est obligé pour éviter qu'il y ait d'autres victimes, soit même des animaux, soit des êtres humains, soit etc. Donc l'Algérie s'est engagée dans cette voie parce que la France n'a pas pris ses responsabilités.
Vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis des autres pays, on a parlé d'une cartographie, d'un document qui a été sorti après une certaine période, déclassé ou déclassifié selon les terminologies, et qui fait état de 26 pays africains contaminés, pollués par les explosions faites dans le Sahara algérien. 26 pays africains.
Exactement. Non, ça, la carte a été déclassée le
avril 2013.
Le 4 avril 2013. Et a été publiée dans le journal parisien en 2014. Donc cette carte, elle montre clairement, c'est les Français, c'est la carte militaire française, elle montre qu'il y a 26 pays qui ont été contaminés par gerboise bleue, parce que c'était 70 000 tonnes. Donc,
26 pays.
Moi, j'appelle ici, à travers cette émission, que les pays africains s'unissent avec nous dans le cadre de l'Union africaine et qu'on doit condamner ces crimes nucléaires qui ont touché le continent africain.
Précision peut-être que l'Algérie a déjà commencé en organisant une conférence récente africaine sur les crimes coloniaux et en classant en premier
le crime atomique.
Exactement.
Et on doit faire appel tous ensemble, pays africains, aux instances internationales pour mettre au pilori, j'allais dire, pour condamner la France coloniale.
Et dans ce cadre, il y a deux experts des droits de l'homme. Le 23 septembre 2024, ils ont adressé un document, un mandat à la France et un mandat à l'Algérie. Pour l'Algérie, il y a 10 points. Et pour la France, il y a 14 points. Parmi les 14 points, je vais parler de deux. Le dixième point, il parlait, est-ce que vous avez demandé des excuses à l'Algérie?
C'est l'un des 14 points demandés
voilà,
à la France.
Voilà, le dixième, 10 points.
Oui.
Le 14e point, ce qu'ils disent, est-ce que vous avez fait des études sur les pays africains qui ont été contaminés? Donc c'est important.
Sur les pays africains.
Donc, on doit donc parler des pays africains. Donc, c'est une occasion pour que l'Algérie, comme ça a été avant les explosions, les Africains étaient unis avec l'Algérie. Ils ont condamné, ils étaient contre. Et maintenant aussi, comme ils sont victimes, ils doivent s'associer à l'Algérie pour qu'on puisse faire un travail ensemble. Et moi, dans ce cadre, je demande qu'il y ait des experts indépendants.
Des experts indépendants d'où de quel pays? De quel organisme? Ah, enfin, si c'est indépendant, c'est indépendant.
Indépendant pour procéder à des études au niveau de ces pays africains et au niveau de l'Algérie. Et c'est cette base-là qu'on va condamner la France devant les instances judiciaires internationales.
Indépendant dans le sens contradictoire, pour mettre en relief la radioactivité persistante,
réelle,
actualisée. Parce que lorsqu'on voit du côté de Rguen et qu'on voit, même en 2026, des femmes qui ont du mal à faire aboutir leur grossesse, des bébés qui naissent avec des malformations, j'allais dire, très graves, comme les seins dactyles, les doigts raccourcis. On a vu des photos ou des images insupportables dans le documentaire de Rguen.
Dans ce sens-là, quelque chose qui est plus grave, sur le plan de la génétique, il y a une étude britannique. On parle d'eux, oui. C'est les Occidentaux qui ont des informations. Dans une étude britannique, ils disaient que les effets des rayonnements ionisants, c'est pour 22 générations. Ça veut dire que dans l'avenir, il faut s'attendre à des surprises, à des monstres. À des...
22 générations. Ça veut dire que les effets des explosions atomiques, des crimes atomiques, ont atteint l'ADN.
L'ADN,
et donc c'est dans les gènes. Et donc ça va persister encore.
Parce que l'ADN est très sensible au rayonnement. Quand l'ADN est touché dans le cadre d'une contamination, d'une radiation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la formation de cellules un peu différentes.
Un peu différentes.
Et ça, c'est le premier pas vers le cancer.
Et ça, c'est le spécialiste du génie nucléaire qui le dit.
Alors qu'au niveau de l'Algérie, le ministère de la Santé a recensé 29 pathologies radio-induites et 11 non cancéreuses, c'est-à-dire la cécité.
Est-ce qu'on peut répéter ce chiffre? 29 pathologies
radio-induites,
oui.
c'est-à-dire qui proviennent de la radioactivité,
et
11 non cancéreuses, mais qui concernent toujours la radioactivité, donc c'est la cécité, donc les maladies cardiovasculaires, etc. Donc ça a été fait par le ministère de la Santé. Et maintenant, moi, ce que je dis, le ministère de l'Environnement aussi doit s'impliquer pour faire un travail dans ce sens, des analyses, des tas de choses. Je crois qu'ils ont commencé.
C'est maintenant, le ministère de l'Environnement et de la qualité de la vie, donc de la qualité de l'air qui est dans les sites contaminés.
De l'air, des eaux, etc. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à quelque chose? C'est la coordination de tous les efforts de toutes les instances algériennes pour pouvoir trouver des solutions idoines à ce problème qui perdure. On parle d'un événement ou d'un crime qui a eu lieu il y a 66 années. Donc c'est beaucoup.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Est-ce qu'on peut dire que les premières opérations de décontamination entamées par les unités très spécialisées de l'Armée nationale populaire constitue, aujourd'hui l'ANP, c'est la locomotive, et les wagons doivent s'arrimer derrière la locomotive avant ANP pour avancer vers dossier de décontamination.
Exactement. Non, l'ANP, ce qu'elle a fait, c'est la même chose avec les mines. Elle a démarré depuis l'indépendance 63 jusqu'à... Ils ont terminé. Donc, étant donné que les unités ont démarré, donc ils ne vont pas s'arrêter. Mais il faut que les autres départements ministériels concernés s'impliquent. pas que c'est une affaire nationale, c'est un problème d'État, c'est un problème d'une population qui vit dans un environnement radioactif. C'est l'avenir.
C'est un travail lourd en termes de développement durable de la région. Il y a un état des lieux. L'Algérie ne dispose pas, parce que la France ne veut pas pour le moment, il faut à la limite l'obliger dans des instances internationales, à donner une cartographie. Et c'est la cartographie des sites irradiés qui peut permettre le développement de toute une région. Où est-ce qu'on doit construire des routes, des maisons, des infrastructures de santé?
Étant donné que la France persiste encore, elle ne veut pas répondre. Donc le téléphone sonne, il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous, on sait qu'au niveau du sud algérien, on a enfoui beaucoup de matériel, des avions, comme j'ai dit, des chars, etc., contaminés un peu partout, et on ignore les lieux. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est demander à la France de prendre ses déchets, tout court.
Retour à l'expéditeur.
Non, pas retour, parce que l'arsenal nucléaire se trouve en France. Et ces déchets sont en relation avec cet arsenal. Prenez le tout, on est quitte. S'ils refusent, il faut demander une assurance risque.
Une assurance risque.
Risque, ça c'est du nouveau. Une assurance risque qu'on doit verser au trésor algérien annuellement. Pourquoi cette assurance risque? On ignore où se trouvent ces déchets. On ignore. Bon, pour les déchets sur la surface, on les connaît, donc je vais proposer quelque chose dans ce sens. Mais pour les déchets enfouis, si jamais il y a un séisme, si jamais il y a des inondations et ces choses sortent, donc c'est un risque pour les populations et pour les animaux, pour la faune, etc. Donc il faut qu'il y ait une assurance risque. Il y a un autre problème plus grave encore. C'est au niveau de la montagne de Tenafella, qui risque de s'effondrer, qui risque. Je donne un exemple de Tchernobyl. Tchernobyl, quand il y a eu l'accident, c'est un réacteur qui... Donc, ils ont fait un sarcophage. Le premier, malgré ça, il y a eu des émanations de radio. Donc, ils ont fait un deuxième. Donc, c'est l'effort de tous les pays européens. Donc, il faut voir, parce que le risque les concerne. Nous, pour Ain Nekr, si jamais demain il y a un séisme, la montagne s'effondre, il ne faut pas oublier qu'il y a à l'intérieur des produits de fission de 13 explosions nucléaires à l'intérieur.
Encore?
Ils sont à l'intérieur, bien sûr. Parce que
pour des milliers d'années.
Donc, ils sont là-bas. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est comme ils ont fait, la France a fait en Polynésie, c'est... Non, pas le sarcophage. Donc, c'est un système géomécanique de surveillance de la montagne. Parce qu'il ne faut pas qu'un jour, on sera surpris. Donc, il faut que la montagne soit surveillée. Si un jour, elle va s'effondrer, on prend nos responsabilités. Donc, c'est un travail dans ce sens qu'il faut faire pour cette montagne à risque. Autre chose, cette lave qui est très contaminée.
On estime à combien? Il y a eu plusieurs chiffres. 10 000 tonnes.
10 000 tonnes. Ah, 10 000 tonnes, oui.
Vous le confirmez?
Ah oui, 10 000 tonnes. 10 000 tonnes,
oui. 10 000 tonnes de lave contaminée. Contaminée. Irradiée.
Donc, c'est le corps de la montagne qui est sorti. Donc, il faut voir que durant les pluies saisonnières, donc il y a des pluies torrentielles.
Il y a un lessivage des sols.
Lessivage du sol. Et puis, où est-ce qu'il va, cette eau, où est-ce qu'elle va? Dans l'Oued, dans un Oued qui passe par Tamaras. Et peut-être il arrive à l'Atlantique. Donc, aussi la décontamination doit aussi suivre le cheminement de ces radioéléments.
Alors ça, c'est du côté d'Ain Nekr. Du côté de Rguen, il y a des vents de sable qui sont partout. Le sable qui est transporté parfois jusqu'au continent européen contient des éléments radioactifs.
Exactement. Là aussi, il y a un grave problème commis par la France dernièrement. C'est quoi? Le 31 janvier 2025, il y a une publication française, 20 chercheurs français.
31 janvier 2025?
25.
C'est récent, ça fait une année à peine.
Une année. Donc, dans une revue qui s'appelle Science Advanced, qui parle sur la climatologie, c'est en anglais. Donc, elle concerne quoi? Le sable, le vent de sable qui est allé sur l'Europe en 2022. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai la publication en anglais. Ils disent que le sable, la contamination de ce sable ne provient pas, elle provient des explosions nucléaires américaines et de l'URSS. Et ça a été fait le 31 janvier avant le 13 février. À chaque fois, quand il y a le 13 février, ils nous ramènent quelque chose. Ils ont mobilisé les scientifiques pour dire quelque chose qui n'est pas normal. Alors que la contamination, elle provient d'explosions françaises quand même. le sable algérien, l'explosion algérienne et la contamination, elle est française. Donc on ne peut pas dire les Américains. Malgré que les explosions nucléaires américaines, russes et britanniques contaminent toute la planète, moi, on le sait. Mais pour le sable de l'Algérie, c'est la France. Alors qu'ils veulent détourner.
C'est une question de logique. Hein. Le site où il y a du sable le plus proche du territoire français, c'est bien le Sahara algérien. Ouais. C'est pas l'URSS et l'ex-URSS, la Russie.
Et pourquoi là? Parce que nous, il faut comprendre une chose. Pour la France, depuis qu'elle a colonisé l'Algérie en 1960 jusqu'à aujourd'hui, sa politique, elle est basée sur les mensonges. Moi, j'ai beaucoup de mensonges de la France. Répertoire des mensonges réels. Et la perte de temps. Les commissions mixtes, qui n'aboutissent à rien. Donc c'est perdu du temps. Alors que nous, c'est un problème concret. Il faut qu'on réalise, pour moi, là, on fait de l'année 2026, l'année pour régler définitivement ce problème.
C'est-à-dire?
Voilà. Étant donné que sur le plan bilatéral, il y a ça coince. Il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Malgré qu'au niveau international, tous les pays, y compris la France, ils ont réglé leurs problèmes avec les pays où ils ont fait des expériences. Par exemple, la France avec la Polynésie. Ils ont réglé beaucoup. Les Américains, les Anglais, les Russes, etc. Sauf l'Algérie avec la France. Donc, il faut élever le niveau. Donc, il faut voir au niveau international. Donc, prévoir ou programmer ou organiser une conférence internationale sous le de l'ONU qui se déroulera en Algérie et aboutir à une convention d'Alger. À l'instar de la convention d'Ottawa sur les mines. Donc, il y a eu l'initiative des pays concernés. Et maintenant, l'Algérie s'est débarrassée des mines, oui, dans le cadre de cette convention.
Et elle a été félicitée pour
exactement.
Cela.
Exactement. Donc, pour moi, si on arrive à cette conférence, si on arrive à la convention d'Alger, donc tous les pays nucléaires seront obligés de céder et d'entrer dans le traité du 7 juillet 2017, parce que le traité du 7 juillet, les pays nucléaires n'ont pas signé ce traité.
Alors, on les oblige. Oui, on les oblige. Comment? Par la voie diplomatique. Utiliser la même méthodologie qu'utilise le ministère de la Défense, exact. C'est-à-dire il prend ses responsabilités, il mobilise des unités spécialisées, il va sur le terrain et il commence à décontaminer les sites pollués par la France coloniale, irradiés.
Que je viens d'énumérer, il y a beaucoup, oui, beaucoup, par priorité. Donc, on a la priorité pour la décontamination, c'est là où il y a des êtres humains. Il faut commencer là.
D'abord.
Dans les villages, etc. Et puis, on va jusqu'à 700 kilomètres, avec le temps. Donc, il y a une autre proposition sur le plan diplomatique, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on règle diplomatiquement. C'est-à-dire, le Kazakhstan. Donc, il y a eu la première explosion russe au niveau du Kazakhstan le 29 août 1949. Donc, Kazakhstan, en 2009, ils ont proposé à l'ONU de faire cette journée, la journée mondiale contre les essais nucléaires, a été adoptée. Pour nous, on peut proposer le 13 février comme la journée mondiale des victimes du nucléaire dans le monde. Donc ça, on avance dans le dossier.
Et aussi sur le plan diplomatique.
Diplomatique. Et on peut aussi, au niveau international, proposer à l'ONU qu'elle fasse une décennie 2026-2036 pour dépolluer la planète Terre. Parce qu'elle est toute polluée. Et les pays nucléaires s'opposent parce qu'ils savent
qu'il y a un prix à payer.
Il y a une incidence financière très, très importante. Mais malgré ça, il faut qu'on propose des choses de grande envergure pour qu'on puisse arriver à régler ce problème qui perdure depuis 66 années. Et je crois qu'on n'a plus la force, personnellement.
Si, mais El Baraka, docteur Mansouri.
De parler, mais il faut exécuter. Maintenant, on est fiers que l'armée, l'ANP, elle est en train de faire un travail sur le terrain. Donc, moi, je suis un homme de terrain, je veux le terrain. Donc, c'est très important. Et ça rassure aussi. Les populations, c'est très important vers leur état. Ça rassure qu'on est en train de... Donc, sur le plan santé, il y a eu beaucoup de matériel, par les scanners, tout ça, au niveau d'Heimberg, au niveau de Regan. C'est très important. On a parlé de ça depuis longtemps, qu'il faut équiper des hôpitaux, qu'il faut faire des diagnostics, qu'il faut suivre. Et pour l'environnement, c'est la même chose. L'armée a commencé. Inch'Allah, les autres institutions concernées vont dans le même sens et dans je crois, d'ici décembre, 31 décembre 26, on aura des bonnes réponses.
Inch'Allah, à l'instant, docteur Mansouri, le ministère de la Défense a pris ses responsabilités. Il s'attaque au dossier. Il faudrait que la diplomatie soit un peu plus agressive sur le dossier de décontamination et faire payer à la France ses crimes radioactifs. Merci.